Merci, et tout de suite, on déhousse les raquettes.
1, 2, 3.
Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kenéen.
Bonsoir, je suis Diane Dufour.
Добрый вечер, Петр Павленский.
Et tous deux, vous prêtez main forte à cet angoissant démon qu'on nomme art.
Ping-pong, la culture sans limite.
Oh, yeah.
Édito.
La culture, ça sert aussi à enquêter, révéler une situation, la faire apparaître, la matérialiser au sens littéral, lui donner matière. Exemple avec les Guerilla Girls, groupe d'artistes américaines qui, après 31 printemps d'action, continuent de secouer les consciences du monde de l'art. Armés de statistiques imparables, d'affichages sauvages et de masques de gorilles menaçants, car de gorilles à guérilla, il n'y a qu'un poil, elles sont arrivées en 1985 en commençant par réagir à une exposition du Metropolitan Museum of Art de New York qui prétendait présenter un état des lieux, an international survey of painting and sculpture, de la peinture et de la sculpture, donc seulement, il y avait 13 femmes sur les 169 artistes. Depuis cet acte fondateur, le groupe s'est élargi à une soixantaine de membres et continue d'agir en vengeur masqué pour, disent-elles, exposer le sexisme, le racisme et la corruption dans l'art, le cinéma et la pop culture. Exemple, se demander s'il faut se dénuder pour entrer au Metropolitan Museum où moins de 5% des artistes sont des femmes dans les sections d'art moderne, mais 85% des nus sont bien féminins. Ou autre placardage, même le Sénat est plus progressiste qu'Hollywood, disent-elles. Sénatrice 14%, réalisatrice 4%. En prenant le nom d'artistes femmes disparues, elles leur font aussi une place dans le patrimoine, car l'histoire d'une culture doit se faire avec toutes les voix, sinon c'est juste une histoire du pouvoir.
Culture is the story of everyone. And how can you really tell the story of a culture when you don't include all the voices within the culture? Otherwise, it's just the history and the story of power.
Dixit Frida Kahlo, l'une des fondatrices des Guerilla Girls. Elle dénonce aussi aujourd'hui la mainmise des oligarques sur l'art et le besoin de curation pour préserver la diversité. Pour suivre et même participer à l'enquête artistique des Guerilla Girls, rendez-vous à Paris, à la galerie Michel Didier jusqu'au 12 novembre et à Londres, où elles viennent de recueillir les doléances des visiteurs de la Tate moderne et affichent à la Whitechapel Gallery jusqu'au 5 mars les résultats d'une enquête. En Europe, est-ce que c'est pire ? Alors Piotr Pavlensky, pour vous, qui montrez les dérives autoritaires de la Russie en vous cousant les lèvres, en vous coupant le lobe de l'oreille, quel regard vous portez sur ces actions des Guerilla Girls, art politique ou art protestataire, puisque vous faites la distinction?
Sans aucun doute,
c'est de l'art sur la politique.
По отношению к внешней политической системе.
Par rapport au système politique extérieur.
Но политическое искусство внутри мира искусства, внутри
en même temps, c'est de l'art политique à l'intérieur de l'art, l'art en tant qu'institution.
Потому что они разрушают декорацию и борются с декорацией власти.
Elles démolissent le décor et luttent contre le décor du pouvoir.
Внутри институций.
Et ce, à l'intérieur même des institutions.
Музеи, галереи,
que ce soit des musées, des galeries, des directions, des mécènes.
Diane Dufour, il semble que s'ils ne sont pas des guerrieros, peut-être le sont-ils les artistes engagés dans l'aventure esthétique politique de la revue Provoque et tous leurs prédécesseurs et tous leurs successeurs qui sont présentés dans la grande exposition Provoque au bal à Paris, donc cette quinzaine 1960-1975 au Japon, eux aussi, ils déchirent, peut-être qu'ils démolissent le décor, en tout cas ils déchirent le rideau, ils nous dessillent, mais quelle est la place des femmes dans le projet de ces photographes, de ces poètes, de ces performeurs engagés dans l'action esthétique et politique au Japon?
Je ne suis pas sûre qu'elle ait été centrale. Je pense que leur propos, en tout cas ceux des membres de Provoque, est un propos assez vaste pourtant, qui est la fin du langage photographique. Rien de moins. Donc je pense qu'il concerne à la fois les hommes, les femmes, un petit peu tout le monde, de tous âges et de tout sexe. C'est vraiment l'idée que la photographie documentaire a vécu, que la photographie ne peut plus représenter le monde. En tout cas, elle peut le faire, mais sans aucun pouvoir de réellement changer les institutions ou la situation de désordre, et qu'il faut donc créer une nouvelle façon d'envisager la photographie dans une optique totalement politique.
<t'->
Comme une épiphanie claudélienne, hein, la prière anti-Poutine des Pussy Riot dans une cathédrale moscovite qui a valu à certaines d'entre elles les camps, on le sait. Ça a été une épiphanie pour vous, Piotr Pawlenski, vous l'artiviste, vous l'activiste qui utilise ou qui mène votre art comme une politique et qui prenait la politique comme un art. C'est le sous-titre du K. Pawlenski, donc l'ouvrage qui vous est consacré chez Louison Éditions, avec à la fois des entretiens, des photographies de vos actions. On y reviendra, mais ces actions, rappelons quelques-unes d'entre elles qu'évoquait Mathilde aussi à l'instant. Vous avez commencé en juillet 2012 en soutien à ce collectif des Pussy Riot, alors en procès, par vous coudre les lèvres avec du fil rouge, et vous êtes demeuré ainsi devant la cathédrale de Kazan à Saint-Pétersbourg. C'était l'action, la performance intitulée Suture. Vous avez ensuite pu vous placer nu dans du fil barbelé devant l'Assemblée législative à nouveau à Saint-Pétersbourg. Vous êtes cloué les testicules sur les pavés de la Place Rouge devant le mausolée de Lénine, coupé un bout d'oreille, et puis vous avez aussi chanté la liberté des Ukrainiens en plein espace public russe. Mais alors, si les Pussy Riot ont, en masquant leur visage derrière des cagoules, d'abord utilisé leur voix, vous, c'est votre visage et surtout votre corps qui sont vos instruments. Est-ce que, parce que vous qui dénoncez la domination, la corruption et la violence dans la Russie d'aujourd'hui, vous considérez que cette domination, cette corruption et cette violence, elle s'exerce d'abord jusqu'au plus profond des corps?
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что
да, я
работаю с телом,
que je travaille avec le corps.
Но я думаю, что все искусство так или иначе
Mais
это работа с
je
телом.
Pense que l'art, c'est un travail avec le corps, d'une façon ou d'une autre.
Это то, что нам принадлежит, и
le
наше
corps,
время.
C'est quelque chose qui нous appartient. Notre temps, c'est quelque chose qui нous appartient.
И тело и время – это те ресурсы, которые
Donc,
государство
le corps et le temps,
у каждого из нас.
Ce sont nos ressources que l'État s'efforce de nous prendre.
Государственные аппараты построены так, чтобы человек
Tout
превращался в биологический материал для построения государства.
Est organisé de façon à faire des humains un matériau de production.
И поэтому искусство – это разговор о
Donc,
субъект-объектных отношениях.
L'art, c'est une conversation des relations entre les sujets et les objets.
И искусство, несмотря на, вот, на протяжении всех веков,
durant tous les siècles,
было и остается разговором о смысле.
A toujours été au sujet du sens.
О смысле как предназначение.
Le sens dans le sens de prédestination.
В чем предназначение времени и тела, которое есть у человека и которое
À quoi sert le corps de l'homme? À quoi sert le temps dont l'homme dispose?
В подчинении, в освобождении от условий, которые делают...
Est-ce que ça sert à se soumettre aux conditions extérieures ou s'en libérer?
Делают жизнь человека неотличимым от существования скотины.
Pour éviter que l'homme ne s'apparente à un animal.
Пусть даже очень хорошо откормленный.
Même un animal bien nourri.
Justement, de l'autre côté de la table, c'est un peu des animaux de la photographie et de l'art, puisque ce sont des punks, on va dire. Le groupe Provoque, ce collectif qu'on va retrouver en exposition au bal Diane Dufour en ce moment à Paris. On dit que c'est pas finalement suffisant la photographie à ce moment-là pour décrire l'état de contestation, l'état de bouillonnement de cette jeunesse au Japon dans les années 60. Donc eux, ils vont quelque part aussi utiliser le médium de leur corps, ce collectif Provoque que vous présentez. Parce qu'il y a un étage de photographie et un étage aussi de performance, même si vous dites que le terme est anachronique.
Oui, alors si vous voulez, pour placer les choses dans leur contexte, Provoque est une revue donc, publiée en 68 et 69 à Tokyo par à la fois un poète, Okada, deux critiques, l'un devenu photographe, Takahira et Takikoji, et deux photographes, Moriyama et Takanashi. Donc c'est une affirmation en quelque sorte qui va balayer deux piliers en quelque sorte de la photographie traditionnelle. L'un, c'est son pouvoir d'indexation. Hein, ils vont remettre en cause le fait que la photographie doit rallier, témoigner, documenter, révélée, enfin tout ce qu'on appelle l'image document. Et ils vont aussi balayer du revers de la main ce qu'on appelle la photographie d'auteur, c'est-à-dire que la photographie serait l'expression d'un regard qui, comme ça, en surplomb, traverserait une réalité et donnerait sa vision, etc., de l'artiste qui voit. Au contraire, le collectif de Provoc va vouloir préduire en quelque sorte le geste photographique en disant que la photographie, c'est avant tout la trace d'un corps dans l'espace, et notamment dans l'espace public. Et que donc, ça n'est pas un discours a priori, ça n'est pas le résultat d'une analyse d'une situation, ça n'est pas une prouesse de composition ou de cadrage, c'est au contraire une sécrétion, alors là ils disent excretia, donc une sécrétion, disent-ils, d'une performance, alors là ils utilisent le mot, d'une performance du corps dans l'espace, et notamment dans l'espace public. Et cette façon d'envisager la photographie, qui va donner des photographies totalement abruptes, éclatées, avec un cadre totalement explosé, qui s'apparente plus à des éclats de présence qu'à un discours sur la réalité, ça va être ça en quelque sorte la révolution de Provoc. Elle est motivée à la fois par l'échec de 10 ans de lutte militante qui a utilisé l'image tous azimuts, des fanzines, des affiches.
Parce que ça démarre au début des années 60.
Notamment cet épisode tragique de la de millions de Japonais, hein, de millions de Japonais qui descendent dans la rue contre le renouvellement du traité de sécurité nippo-américain. Hein, ça, c'est ce qu'on appelle l'ANPO. Et donc ça, c'est des millions de Japonais qui vont donc se rebeller de manière extrêmement violente contre le modèle américain, l'emprise américaine, mais aussi la présence militaire américaine, notamment à Okinawa, d'où partent les fameux B-52 remplis de napalm contre le Vietnam. Mais le groupe de Provoc va aussi être très influencé par l'émergence du nouvel avant-garde japonaise, qui elle refuse de renouer avec une avant-garde des années 20-30, parce qu'on le comprend très bien, cette avant-garde a directement conduit à un régime militaire extraordinairement impérialiste et cruel. Et donc cette avant-garde dans les années 60, qui a 20 ans en gros en 60, va privilégier des petits décalages dans le quotidien, des petites mises en scène ou des petites ruptures en quelque sorte dans la chaîne normée de la société japonaise pour démontrer en quelque sorte l'absurdité du système. Donc ça peut être par exemple en 1964, ils vont aller nettoyer à la brosse à dents un trottoir de Tokyo pour dénoncer le fait que le gouvernement japonais a rasé toute une partie de Tokyo qui était encore la partie la moins sexy, la moins nettoyée, pour faire bonne figure au moment des Jeux Olympiques.
Piotr Pawlenski, le fait que vous aussi vous opériez un décalage, non pas dans l'espace public japonais, mais dans l'espace public russe, que ce soit à Saint-Pétersbourg, que ce soit à Moscou, avec des mises en scène où vous mettez en scène votre et en jeu votre corps nu, il apparaît quand même que ça se rapproche de ce que Diane Dufour appelle la question du document, de la trace, parce que dans le livre qui vous est consacré chez Louison Édition, le cas Pawlenski, sont mis, je dirais, au même niveau, à la fois des photos de vos actions, quand vous êtes enroulé dans les barbelés, quand vous montez sur un mur et vous vous tranchez l'oreille, et, par exemple, votre interrogatoire, la transcription de votre interrogatoire par un enquêteur à la suite de votre action en faveur du peuple ukrainien. Est-ce que vous avez l'intention, dans chacune de vos actions, simplement de documenter la réalité russe?
Si
on parle de ce que je fais, effectivement, il y a des analogies. Notamment en ce qui concerne les traces, parce que je veux laisser des traces. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la trace en tant que telle, ce n'est pas la photo en tant que trace. Ce qui m'intéresse, c'est l'événement dans un champ d'information, car nous habitons tous, nous vivons tous dans un champ d'information. Et la culture de chaque peuple, la culture des humains dans leur ensemble, en fait, c'est une multitude de mémoires collectives. Chaque action, chaque inaction agit sur la mémoire collective.
La
mission que j'entends allouer à l'art,
Они заключаются в изменении коллективной памяти.
Consiste à changer cette mémoire collective.
Et vous laissez des traces, parce qu'on sait que Provoke, ces artistes japonais, avec trois numéros seulement de leur revue entre 68 et 69, ont durablement influencé toute la production culturelle japonaise jusqu'à nos jours. Vous avez déjà les échos de l'impact de vos actions, aussi justement peu nombreuses soient-elles?
Je pense que oui, sans aucun doute.
Как я уже сказал, в информационном поле прецеденты и события остаются.
Dans le champ d'information, comme j'ai dit, tout reste. Les événements, les précédents.
Есть различные формы жизни событий, то есть как вербальные, когда люди.
Différentes formes de vie de ces événements. Une forme verbale.
Как и визуальные.
Une forme visuelle.
Я формулирую
quant
то, что происходит.
Je formule ce qui se passe avec les humains.
То, что переживает каждый из людей.
Ce que vit chacun de nous.
Поскольку я работаю в России, я говорю о том, что прежде всего.
Et comme je travaille en Russie, je parle avant tout de la Russie.
Потому что я понимаю, что там происходит.
Car je comprends ce qui se passe en Russie, je le ressens.
Но происходящие события, они рассеяны.
Mais ces événements, les événements de nos jours, sont dissipés.
И есть, поскольку я художник.
Or, je suis l'artiste.
То, как это было всегда, я также показываю. То есть художник создает визуальность. Он
en tant qu'artiste, en tant qu'artiste, je crée du visuel. Je travaille avec ceux qui se voient.
И за счет этого остается прецедент в коллективной памяти.
Et c'est comme ça qu'il y a un précédent qui reste dans la mémoire collective.
А это и есть работа в поле культуры.
Et c'est cela que j'appelle le travail dans le champ culturel, c'est cela que j'appelle la transformation.
Dans la préface de ce livre d'entretien, donc le Kapavlensky, la politique comme art, le philosophe Michel Elchaninov, qui a publié l'année dernière donc un essai sur les nouveaux dissidents, dit que vous nommez le mal alors que l'État fait tout son possible pour qu'il demeure diffus. On en parlait tout à l'heure avec Diane Dufour et le collectif Provoke au Japon. Quand on épuise un certain nombre de méthodes pour transmettre, on va dire, la revendication, la contestation, il faut inventer d'autres formats, d'autres manières de dire. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça aussi votre travail, de trouver les bons outils pour matérialiser l'invisible en Russie ou l'inaudible?
Il est inslышно.
Да, на самом деле это и видно, и слышно, но это закрыто декорацией.
En réalité, on voit et on entend tout, mais ce tout est caché par un décor.
Как правило, декорации всеобщего благополучия.
Et ce décor, c'est le bien-être général.
Или патриотизма.
Ou le patriotisme.
Или равенство.
Ou l'égalité.
Или свободы.
Ou la liberté.
Какое бы слово мы ни представляли.
On peut mettre n'importe quel mot.
Декорация все равно остается декорацией.
Pour décorer ce décor, mais ce n'est qu'un décor.
И моя задача как раз разрушить эту декорацию.
Or, mon objectif est de démolir ce décor.
И просто показать вот эту механику, механику власти. Вот.
Et de montrer ou démontrer plutôt la mécanique du pouvoir.
То есть я обнажаю всего лишь жестокую действительность или действительность в непрекратной жестокости.
Je ne fais que montrer la réalité cruelle ou la réalité dans toute sa cruauté.
Et lorsque les Pussy Riot disent que vous êtes finalement leur voix et leur corps, est-ce que vous sentez aujourd'hui, Piotr Plavensky, une mission comme ça d'incarner, on va dire, les autres voix de la contestation en Russie? Celles qui sont écartées de différentes façons par le pouvoir.
Да, но дело в том, что история искусства.
Oui, mais l'histoire de l'art.
По крайней мере, в России я могу говорить.
Du moins en Russie, je ne peux parler que de ce que je connais, mais je pense que c'est aussi le cas en France.
Это история столкновения человека и власти.
C'est l'histoire des heurts entre l'homme et le pouvoir.
А в России это начиналось, безусловно, с литературы.
En Russie, cela a commencé par la littérature.
Радищев, Рылеев,
Чернышевский, Толстой,
Маяковский,
Мандельштам,
Малевич,
Филонов,
множество фамилий. Все эти люди,
j'aurais pu citer d'autres
noms, преследовали власть, этих людей казнили.
Tous ces gens étaient persécutés par les pouvoirs. Ils étaient exécutés.
На десятилетия они их отправляли в ссылки.
Ils étaient arrêtés et envoyés en exil pour des dizaines d'années.
По большому счету продолжается то, что происходило всегда.
Et ce qui se passe aujourd'hui, en gros, c'est ce qui s'est toujours passé.
Власть заинтересована только в том искусстве, которое ее оформляет.
Le pouvoir n'a intérêt à sauvegarder que l'art qui l'arrange.
То есть в оформительском искусстве.
L'art qui sert à décorer.
Diane Dufour, sous des apparences polissées, tout du moins dans les clichés qu'on a par rapport à la société japonaise, il y a une grande violence sociale, une grande violence qui s'exprime en particulier dans ces années 1960-1975, qui sont au cœur de l'exposition, donc provoque entre contestation et performance la photographie au Japon, qui est donc présentée au bal, grâce à vous. Justement, j'aimerais savoir quelles sont les relations de ces artistes engagés, tous ces photographes, ces poètes qui sont à l'origine de cette revue, mais aussi donc des mouvements étudiants, des lauréats des années 60, par exemple, avec leur relation avec le pouvoir et dans cette confrontation avec le pouvoir. Est-ce qu'il y a une façon de les englober, de les dévorer, comme le fait la machine américaine avec les avant-gardes, ou il y a quelque chose de très violent, comme dans la Russie d'hier et la Russie d'aujourd'hui ?
À l'époque, la revue est totalement confidentielle. Le premier numéro, c'est 300 exemplaires, le deuxième 500, le troisième 700. Donc en fait, quelques personnalités de ce monde de l'avant-garde, des gens comme Araki, qui seront après très influencés par Provoke, ou des gens comme Takamatsu, Nakanishi, Terayama, le grand homme de théâtre de ces années 60 au Japon, ont eu conscience de la bombe qu'a représentée Provoke. Mais cette bombe, elle n'est pas destinée directement à un pouvoir qui serait une sorte de dictature cachée.
C'est pas un Léviathan.
Non, c'est pas un Léviathan parce qu'en fait, le gouvernement japonais à l'époque est complètement encore sous l'emprise américaine. Hein. Le traité de sécurité sino-américain va être renouvelé à la fin des années 60. Les bases américaines sont toujours là. La politique à la fois de relever le Japon et d'en faire la deuxième économie du monde et donc d'anesthésier aussi une partie de la conscience politique dans une consommation effrénée. Hein. On parle des 3C, hein. La voiture, l'air conditionné et l'appareil photo, parce que c'est aussi un moment où tout le monde devient photographe, ça c'est très intéressant. Mais donc il n'y a pas cette idée d'être contre un État qui serait tout puissant et qui écraserait l'individu. C'est pas ça. C'est plutôt une idée de révolution intérieure. C'est-à-dire que dans la mesure où l'action collective militante par l'image n'a pas abouti à une prise de conscience, alors il faut retourner la chose en soi, hein, et donc c'est amusant parce que les membres de Provoke vont beaucoup citer des influences françaises, artistiques ou intellectuelles. Hein. Ils vont citer Antonin Artaud pour la folie, ils vont citer Henri Michaud pour le geste, Godard, bien sûr,
Jean Rouche,
Guy Debord, la société du spectacle. Donc ils vont beaucoup citer de personnalités comme ça qui vont alimenter la déstabilisation qu'ils essaient d'entreprendre. Mais cette déstabilisation, elle est pratiquement de eux-mêmes avec la photographie. C'est-à-dire que eux, leur projet, c'est d'aller au-delà de la photographie telle qu'elle est considérée habituellement. Bien sûr, à des fins totalement politiques, du politique, et du politique qui est en soi et qui est porté par un corps dans l'espace public qui donc va enregistrer ce chaos, cette absurdité du monde. Il convoque même Camus, un philosophe de l'absurde, Camus, parce que la raison n'est pas de vouloir documenter le tout, de vouloir rendre compte d'une forme de rationalité dans une enveloppe globale du monde. C'est au contraire, cette raison, elle doit s'appliquer au fragment, à l'image explosée, à quelque chose qui est de l'ordre de... Takikoji a une très belle expression, il dit, alors qu'on parle dans ces époques-là beaucoup du regard, le regard de Cartier-Bresson, le regard de Robert Frank, le regard de William Klein, eux parlent d'être voyants. Donc vous voyez, ils opèrent un décalage, c'est-à-dire que ça n'est pas de l'ordre de la conscience raisonnée, c'est de l'ordre d'être soi-même une pellicule vierge qui reçoit un certain nombre de faits et de vibrations. Et ils parlent de trouver quelque chose, disent-ils, qui se situe avant la forme. Donc vous voyez, la forme devient en fait quelque chose qui est à déboulonner, qu'il faut exploser de l'intérieur pour témoigner d'une forme d'absurdité contre lequel on ne revendique plus une action collective. Hein, c'est le geste, on est plus dans Beckett quelque part, on est plus dans l'idée d'un individu qui par un petit décalage hein, va, disons, ausculter hein, une réalité collective.
des artistes japonais de provoque qui tentent d'être voyants à la fin des années 60 à ces dissidents qui ont tenté de faire voir en Russie. C'est l'objet de notre ping-pong ce soir.
Il y avait quelques psychiatres, dont le fameux docteur Luns, dont le fameux professeur Snishevsky, c'est-à-dire qu'on retrouve toujours les mêmes personnes, qui avaient effectivement élaboré un concept qui était absolument magnifique, qui était celui de la schizophrénie sans symptômes. Donc on trouve des déclarations qu'ils faisaient à l'époque qui étaient absolument sublimes en disant « c'est pas parce que quelqu'un n'a pas de symptômes, c'est pas parce qu'on ne voit pas sa maladie et qu'elle n'a pas de conséquences sur son quotidien qu'il n'est pas malade ». Donc effectivement, avec ce principe-là, on peut mettre à peu près tout le monde dans des hôpitaux psychiatriques. Alors, bien sûr, ça a été fait à la demande du KGB, et notamment le KGB de M. Andropov, puisqu'en fait, c'est une pratique qui s'est généralisée de manière massive quand Andropov était à la tête du KGB. Et donc, il avait instrumentalisé un certain nombre de médecins qui ont joué le jeu, dont on dit, ça n'a jamais été prouvé, mais on a des témoignages visuels, qu'ils étaient eux-mêmes au gradé du KGB. Bon, ce qui est tout à fait possible étant donné que le KGB avait infiltré un petit peu toutes les organisations et toutes les couches sociales. Et donc, ils avaient inventé ce concept qui permettait de se débarrasser des opposants.
C'était dans la Fabrique de l'Histoire en 2009. Cécile Vessy, professeure en études russes et soviétiques à l'Université de Rennes 2 et docteur en sciences politiques à l'IEP de Paris, intervenait donc dans l'émission d'Emmanuel Laurentin sur France Culture. On s'intéressait donc à l'opposition, aux dissidents dans l'URSS des années 60. Vous avez été un des premiers, Piotr Pavlensky, à dénoncer le retour de ce qu'on a appelé, entre autres, la psychiatrie répressive, la psychiatrie punitive. Il faut rappeler qu'il y a un certain nombre évidemment de journalistes, de l'opposition, d'éditorialistes, d'opposants qui ont été internés en hôpitaux psychiatriques récemment en Russie. Vous, Piotr Pavlensky, vous êtes retrouvé récemment, 21 jours, interné après une action. Comment est-ce que justement se passent ces séances d'interrogatoire et en quoi, effectivement, vous avez l'impression qu'on retrouve cette idée de schizophrénie rampante et autres noms qui sont des faux diagnostics ?
Такого диагноза, как вялотекущая шизофрения, сейчас уже нету.
Vous savez, il n'y a plus de diagnostic genre schizophrénie rampante, et c'est très bien.
Et благодаря диссидентам,
grâce aux dissidents,
была разорвана очень важная связка, которая была в Советском Союзе, это связка между МВД и институтом психиатрии.
On a réussi à rompre les liens entre le ministère de l'Intérieur et les institutions psychiatriques. Et c'est très bien.
Вопрос, который я ставил,
la question
к наследию истории искусств,
que j'ai posée en parlant de l'héritage de Van Gogh...
Parce que vous êtes coupé le lobe de l'oreille.
Ouais. Exactement, c'est quand je me suis coupé le lobe de l'oreille.
C'est un вопрос об объективности психиатрии как таковой.
Ben, la question était sur l'objectivité de la psychiatrie en tant que telle.
Потому что психиатрия является подкладкой под режим.
En fait, la psychiatrie ne sert qu'à sous-peser tel ou tel régime.
И примерами тому служит его вялотекущая шизофрения, которая была естественно выдуманным диагнозом.
Cette schizophrénie rampante était vraiment pas un diagnostic, c'était une sentence.
Так и в Америке драпетомания и дезэстезия – это еще времена рабовладельческого строя, когда
tout comme aux États-Unis, la pitomanie, tout ce qu'on a inventé par rapport aux esclaves.
Диагнозы и
on inventait des diagnostics et des psychiatres, eux, écrivaient des volumes entiers sur ces maladies inventées.
Рассматривают склонности, желание раба убежать.
C'est quand il s'agissait de présenter un esclave comme malade, quand un esclave voulait se sauver. Ou quand l'esclave gâchait les produits de son travail. Je pense qu'on peut trouver ce genre d'exemple dans d'autres pays.
И это большой вопрос о том, что всякая власть пытается инструментализировать.
Cela prouve que tout pouvoir essaie d'instrumentaliser.
Любую область человеческого знания, будь то
инструментализер n'importe quel domaine de connaissance ou de savoir humain, que ce soit les arts, que ce soit la psychiatrie, que ce soit les médias. La police, etc.
Oui, mais aujourd'hui, justement, puisque vous avez voulu si vous le dénoncer dans une action, vous coupant le lobe de l'oreille devant une institution psychiatrique en Russie, quelle est la situation précisément par rapport à la psychiatrie et son usage, éventuellement, même si c'est distingué?
J'ai
du mal à vous répondre à cette question de façon objective.
Потому что, да, я находился 3 недели в институте
oui,
сербского.
Oui, effectivement, j'ai passé 3 semaines à l'institut сербский, qui est une institution psychiatrique.
И психиатры пытались держать меня в карцере, так называемой, то есть в изоляции.
Les psychiatres ont essayé de m'isoler totalement.
Но они были уже очень аккуратны, они были очень
Mais
осторожны.
Les psychiatres faisaient très attention à ce qui se passait.
Потому что было определенное внимание.
Car, en fait, il y avait déjà une certaine attention qui se formait autour.
И помимо этого, у меня было за предыдущие 4 года уже порядка 10 освидетельствований.
Et de plus, durant les 4 années qui ont précédé, il y a eu 4 témoignages et 4 diagnostics, une expertise en ma faveur.
И самый опасный момент для меня,
ce qui était le plus dangereux pour moi,
был в самый первый раз после акции ШОВ.
C'était la toute première fois où j'ai été interpellé après m'être cousu la bouche.
Когда полицейские отвезли меня в больницу на
Les policiers m'ont amené à l'hôpital psychiatrique.
И там вот эта женщина-врач, она встала на мою сторону.
Et la dame psychiatre à qui je faisais face, elle a pris mon côté.
И она не стала выдумывать диагноз. Она так сказала, что я на твоей стороне, поэтому я не буду.
Elle n'a pas essayé d'inventer un nouveau diagnostic. Et elle m'a dit ouvertement, je suis de ton côté et je ne vais rien inventer.
Потому что если бы в тот момент мне попался бы на пути другой человек,
j'aurais pu rencontrer un autre psychiatre,
который бы просто придумал какой-то диагноз,
qui lui aurait pu inventer une sorte de diagnostic totalement fantaisiste.
Ça могло бы быть по-другому.
Eh bien, les choses auraient pu prendre une autre tournure.
Потому что это показала акция отделения. И все мои встречи с психиатрами, что психиатрия – это набор субъективных мнений.
J'ai compris, après tout ce que j'ai vu comme psychiatre, que la psychiatrie, c'est une somme d'opinions subjectives.
1, 2, 3.
Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, l'émission qui ne tente pas de vous diagnostiquer. Nous restons avec Diane Dufour et Piotr Pawlenski pour la suite de cette aventure, à la fois l'artivisme en Russie et la provoque au Japon.
Ping-pong. La culture sans limite.
Il est des créatures qui, comme Piotr Pawlenski, se jouent des barbelés, ce sont les oiseaux. Et il est des hommes et des femmes qui, comme les artistes japonais conjurés au sein de la revue Provoque, résistent au matérialisme consumériste. Ce sont les Sami, ce peuple indigène de l'extrême nord de la Norvège qui chevauche librement le cercle polaire. Et puis il est une femme qui parle leur langue, celle des oiseaux et des samis, qui connaît leur sortilège et subvertit le marché du disque à grands coups d'aile, de celle qui chante dans les enluminures des textes médiévaux et dans les travaux des alchimistes de la Renaissance. Cette femme, c'est l'anglo-norvégienne Sacha Siem, qui, après s'être évadée de l'Académie de musique Guildhall de Londres et des universités de Cambridge et Harvard, avec quand même en poche le titre de la plus jeune lauréate du British Composer Award, embrase métaphoriquement quelques plumes sur son album Bird Burning et nous invite à présent à un doux châtiment. You punish.
Punish me, you please. Step on the side of your hand or bite the skin along your thumb. No surprise when I ask for a second time. Could you not take that nail to my navel? My throat, the way I know you want it every time. Could you not take the nail to my navel? Or take the truth to my throat, the way I know you want it every time. You punish me and peel a scalp on the side of your hand, or bite the skin along your thumb and look surprised when I ask for a second time. Could you not take the nail to my navel? Or take the truth to my throat, the way I know you want. To my throat, the way I know you want it every time, yeah. You say she slept in the next room. You say she slept in the next room. I do not take that name to my name. The way I know you want it every time, yeah. Could I not take that nail? Could I not take that nail? Could I not take that nail to my name? The way I know you want it every time, yeah. Could I not take that nail? Could I not take that nail? You want it every time, yeah. Change the subject or say nothing.
You Punish par Sacha Siem sur l'album Bird Burning, disponible le 28 octobre prochain sous le label Caroline. Et les concerts, eh bien, à venir en France seront à découvrir sur la page de Ping Pong sur franceculture.fr.
Ping Pong, la culture sans limite.
Écoutez les rallies dénudées du rock psyché des années 60 au Japon. C'est peut-être le pendant sonore de ce qui a été Provoque, cette revue éphémère qui va s'auto-dissoudre, qui est représentée en ce moment au bal à Paris, donc à côté de la place de Clichy. Vous êtes co-commissaire, Diane Dufour. Vous présentez l'œuvre donc de ces photographes, critiques, artistes que sont les gens de Provoque, qui ne sont que des garçons. Ils disent que c'est de la matière à provoquer la pensée.
Oui, c'est-à-dire que l'image n'est pas conçue comme un but en soi. Hein. Ce n'est pas l'idée de produire un joli objet qui va inspirer des générations de photographes ou qui va orner des cimaises d'un musée. L'idée, c'est d'être dans le moment présent, de projeter son corps avec subjectivité dans le chaos et l'absurdité de son temps et d'ouvrir une brèche qui sera à la fois une brèche poétique et politique dans ce moment. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, le Japon bascule dans une société de l'image, que les médias, le début de la presse féminine, le début de la presse de faits divers, le début de la presse people, le rôle de la télévision. Voilà, c'est aussi ce moment-là contre lequel les photographes de Provoque vont essayer de diagnostiquer, mais qui vont aussi essayer de lutter contre l'instrumentalisation de l'art. Parce que déjà, dans les années 60 au Japon, il y a cette idée que la posture de l'artiste, avec un grand A, c'est une posture qui va être finalement assez vite récupéré par le système, que ce soit le système des galeries, que ce soit le système des critiques, que ce soit le système des musées, et que eux, fabriquant leur petite revue dans leur petit coin, qui sur le moment est quasiment passé inaperçu, mais en se posant, comme le dit Araki, des questions essentielles quant à la portée du geste photographique, vont en quelque sorte abattre un mur qui est un mur invisible, qui n'est pas un mur d'une institution, qui n'est pas le mur de l'État, on l'a vu, il ne s'insurge pas contre l'État en tant que tel. C'est la place de l'homme dans la société qu'ils vont contester.
Mais alors ces questions essentielles, Diane Dufour, elles sont posées par des textes critiques, par des textes théoriques, par des actions politiques dans l'espace public, mais principalement, en tout cas dans ce que vous choisissez de nous montrer, ce qui est montré à l'époque dans les trois numéros cultes de la revue Provoque entre 68 et 69, ce sont des images. Alors est-ce que vous pourriez nous décrire quelques-unes des images de Takuma Nakahira, de Yutaka Takanashi, ou encore, moi, celle qui me fascine tout particulièrement, les images d'accidents ou de supermarchés de Daido Moriyawa?
Alors, on peut commencer par le dernier que vous avez cité, Daido Moriyama. Alors, il y a une expérience très intéressante qu'il raconte dans ses mémoires, qui viennent d'être traduites en français, que je vous encourage à lire, c'est très belle. Il raconte qu'il est en pleine guerre de Tokyo le jour où il apprend l'assassinat de Robert Kennedy en 68. Et qu'il l'apprend en voyant des centaines de journaux, des quotidiens, qui jonchent comme ça le sol des rues, l'espace public toujours, et puis le sol de du métro, de la gare, et qu'il est choqué, non pas par la nouvelle elle-même, évidemment, qui choque tout le monde, mais surtout par la manière dont il a appris cet événement, par cette espèce d'image détritus. L'image déchet, l'image qui est au sol, comme ça, qui n'a pas plus de valeur que ça, et qui désacralise, en fait, en la rendant virtuelle aussi, toute information. Et il va dire que ça va déclencher chez lui, exactement au moment où il participe au collectif de Provoque, la série Accident, qui va être publiée pendant un an en 69 dans Asahi Camera, qui est un des grands magazines japonais de l'époque, consacré à l'image, et où il va faire des photographies de photographies. Et donc, on voit dans l'exposition, vous avez des photos de la télévision avec les bombardiers japonais les bombardiers américains qui partent du Japon contre le Vietnam. Vous avez aussi des images de faits divers, de la presse de faits divers, de la presse People. Et il va voir cette phrase que je trouve extraordinaire et qui est intéressante pour notre discussion. Il va dire, en fait, mes photographies de photographies, pourquoi une photographie devrait-elle passer par mon filtre personnel pour être signé de moi ou pour porter mon empreinte. En fait, je voulais qu'on se pose les mêmes questions pour ma photographie que pour les images pornographiques. On s'intéresse pas tellement à qui les a faites et comment elles ont été faites, on s'intéresse surtout à ce qu'elles représentent. Et dit-il, ce qui est, je trouve magnifique, là c'est Diane Dufour qui parle, et dit-il, je voulais que la photographie tombe aussi bas pour voir ce que je pouvais en ramasser. Donc vous voyez, il est très, en fait, c'est cet esprit de l'époque de Provoque, c'est l'esprit de déminer l'institution photographique pour essayer de la régénérer en lui donnant un sens politique.
Dans le cas Pavlensky, la politique comme art, Piotr Pavlensky qui est à notre table, donc qui, on le rappelle, a eu justement une manière aussi de faire tomber l'art et de ramasser les miettes, d'y aller avec son corps, de se coudre les lèvres, donc on l'a dit aussi, de se couper un lobe de l'oreille devant une institution psychiatrique ou de mettre le feu aux portes de descendants du KGB. Dans cette entreprise, justement, qui vient pas naturellement, à quel moment vous vous dites que finalement vous participez, au départ dans votre formation à l'Académie d'art et d'industrie de Stieglitz, Piotr Pavlensky, vous participez à cet art justement que vous appelez propagande. À quel moment vous décidez de quitter la trajectoire de l'artiste qui était prévue pour être la vôtre au départ?
Прежде всего, я не оканчивал Академию Штиглица, я ушел.
Je n'ai pas terminé mes études à l'Académie Штиглиц. J'ai quitté l'Académie après la cinquième année.
Ah, et для меня это принципиально важно, то, что я не окончил ни один.
Pour moi, c'est très très important le fait que je n'ai pas eu de diplôme officiel.
Потому что если бы я окончил,
je pense que si j'avais obtenu mon diplôme,
значит, я получил бы сертификат соответствия, я расписался.
Ça aurait été une sorte de certificat de conformité. J'aurais été conforme à une norme.
То, что я соответствую стандарту обслуживающего персонала.
Une norme de quelqu'un qui fait partie du service.
То есть оформителя, художника, который занимается оформительским искусством.
En quelque sorte, le décorateur.
И который оформляет, неважно, что режим или какой-то частный интерьер.
Peu importe ce qui est décoré, ça peut être le régime, ça peut être un appartement, une maison.
Который, по большому счету, является просто проституткой.
Mais en fait, c'est de la prostitution.
Потому что это проституирующее мышление, то есть поиск заказчика.
En fait, ces gens-là n'obéissent qu'à leurs clients.
Вся ответственность сводится к тому, чтобы найти заказчика и удовлетворить et его интересы.
La seule question qui se pose, comment trouver un client pour mieux le satisfaire.
Но для меня это неприемлемо, поэтому я
pour
не
moi,
окончил.
C'était absolument inacceptable, c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais eu de diplôme.
Mais je pense qu'on a pu qualifier, j'imagine, vos performances, vos actions dans l'espace public, Piotr Pavlensky, de pornographie, parce que vous intervenez nu. Mais pour rejoindre ce que disaient Diane Dufour et Mathilde à l'instant, il y a la question de la chute du corps qui déchoit. Est-ce que cette façon d'agir avec votre corps dans l'espace public, en le faisant souffrir, en le dénudant, c'est aussi une réponse à toute une histoire de l'art politique russe, avec le corps glorieux de l'ouvrier guerriers dans le réalisme soviétique est peut-être une réponse aussi politique au corps que devrait avoir l'homme russe selon Vladimir Poutine.
Русский человек по Путину.
Да, но если вы говорите о советском искусстве, то есть о соцреализме...
Si vous parlez de l'art soviétique et du réalisme socialiste...
То соцреализм, безусловно, это крайняя форма...
C'est vrai que le réalisme socialiste...
Оформительского искусства...
C'est la forme extrême de l'art décoratif.
Это, ну, это искусство, которое, по большому счету, является просто пропагандой.
En fait, c'est de la propagande.
Разницы между таким искусством и пропагандой нет ровным счетом никакой.
Cet art et la propagande n'existe quasiment pas.
То есть она как раз и встает вот этой стеной между истиной и взглядом.
Et c'est ça qui dresse un mur entre la vérité et le regard.
А что касается тела и действий, которые я осуществлял,
et des performances que j'ai exécutées.
То я возвращал себе свое тело, потому что...
En fait, je me suis réapproprié mon propre corps.
Почему мы должны жить под диктатом того, под диктатом регламента?
Pourquoi devrait-on vivre sous le diktat de règles?
Что именно в таком-то месте тела должны находиться в таких-то положениях, совершать только такие-то
движения? Les règles qui disent que le corps doit se trouver à tel endroit et effectuer tel ou tel mouvement.
Что-то делать или что-то, то есть все действия и бездействия.
Le corps doit faire ou ne pas faire, mais tout est écrit d'avance.
По-моему, мы все участвуем в большом бюрократическом ритуале.
En fait, c'est une sorte de rite bureaucratique.
То есть именно ритуал, как мы можем увидеть у первобытных народов, у аборигенов.
Exactement, exactement comme les peuples primitifs avaient leur rite. Là, nous faisons tous pareil.
У этого ритуала есть слуги, это полицейские, психиатры,
средства массовой информации. Ces rites sont servis par des serviteurs fidèles, tels que les policiers,
практически все, что власти удалось инструментализировать, сделать своим
инструментом. Tout ce que le pouvoir a réussi à instrumentaliser.
И дальше каждый решает сам. Он поддерживает этот ритуал
бюрократический. C'est à chacun de décider s'il veut participer à ce rite bureaucratique.
Или опровергает.
Ou s'il veut s'y opposer.
Diane Dufour, justement, dans la proposition, on va dire, d'image multisource, qui peut aussi être aujourd'hui pas commandée par une propagande, mais finalement aussi une certaine idéologie, une certaine vision de la société. Quand vous arrivez et que vous créez la structure du bal, vous qui êtes aussi en charge du numérique et à la direction de l'agence Magnum à partir de 2000, vous observez donc le rôle des images aujourd'hui. Et avec quelle intention vous arrivez dans, justement dans le décryptage et peut-être dans le classement de ce qu'est de l'image de commande, de quel chemin on peut justement se tracer à travers la profusion d'images qui est plus du tout la même aujourd'hui qu'hier?
La question à Magnum était une question à la fois collective, puisque c'est la plus grande coopérative de photographes au monde, hein, qui fête l'année prochaine ses 70 ans. Et c'est à la fois, j'allais dire, un concerto de solo, puisque chacun de ces photographes poursuit son propre langage, sa propre création, ses propres investigations du champ photographique. Donc voilà, c'est un rôle un peu paradoxal. Au bal, en fait, on a créé, c'était dans les missions du bal à l'origine, une fabrique du regard. Donc c'est quelque chose qui n'est pas destiné au grand public, c'est nous allons dans les zones d'éducation prioritaire à Paris et au-delà du périphérique et en région, et nous apprenons aux jeunes de 8 ans à 18 ans à lire des images. Ça peut être une image de Jeff Hall, un film de Depardon, ça peut être une action, une performance filmée, ça peut être aussi un tweet de Daesh, ça peut être aussi des images sur Instagram des adolescents bourrés le samedi soir. Donc si vous voulez, on leur apprend à essayer de développer leur sensibilité, un esprit critique, d'essayer de trouver une place, et Dieu sait on sait qu'aujourd'hui c'est difficile pour eux de trouver dans l'espace public et dans une conscience collective du vivre ensemble une place. Et donc nous essayons par des ateliers de les stimuler, de les bousculer, mais aussi de leur donner une place, de leur donner une parole, de leur dire « vous allez comprendre un monde d'images par l'image ».
C'est fou ce monde. On ne se rend pas compte, on ne prend pas le recul. C'est pour ça que le passé, j'y repense simplement avec les avions de mon temps, l'escadrille où j'étais, qui faisait du 90 à l'heure, les avions d'observation, et les Newport de l'âge de chasse qui faisaient du 200. Et où allons-nous? Cette course est freinée. C'est l'intensité des moyens de destruction. L'homme a toujours été merveilleux et dégueulasse. Enfin, il suffit de voir chacun de nous de gratter un petit peu, même sans aller se faire psychanalyser. Non, c'est l'intensité des moyens de destruction et de création en même temps. Et ça vient tout de même des découvertes scientifiques. Et plutôt des applications de la science. Non, c'est un monde démentiel
et
suicidaire.
Henri Cartier-Bresson, au micro de France Culture, c'était dans Le Bon Plaisir en 1991, et vous avez envie de continuer le dialogue avec lui, Diane Dufour?
Non, le dialogue avec Henri Cartier-Bresson, non, mais je voulais dire...
Et cofondateur de Magnum. Hein.
Cofondateur de Magnum, que j'ai bien connu. Non, je voulais dire que cette idée du suicide par l'intensité des moyens, c'est exactement en fait ce que vont faire les photographes de Provoque, parce qu'il ne faut pas oublier que les photographes de Provoque ont 20 ans en 60-68, et qu'ils ont vécu un Japon à terre. Ils ont vécu une sorte de tabula rasa. Ils ont vécu le théorème d'Adorno à leur façon, c'est-à-dire comment représenter, après avoir vécu l'irreprésentable, deux bombes atomiques, Tokyo totalement rasé par les bombes au napalm.
L'intensité, les moyens de destruction, ils connaissent ça dans leur chair.
Voilà, ils connaissent ça dans leur chair. Regard. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'eux-mêmes vont aller jusqu'au bout de l'implosion du geste photographique en revendiquant donc cette fragmentation du regard, mais aussi physiquement en détruisant leur propre négatif et leur propre photographie de cette période. Et c'est pour ça qu'il a été très difficile de monter l'exposition. Et c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu d'exposition majeure consacrée à Provoque. C'est qu'il y a, en termes de système d'exposition et de lieu, très peu de matière de l'époque qui perdure. Mais ce sur quoi je voulais insister, c'est qu'eux sont allés radicalement au bout de ce geste en détruisant, en disant mais nos photographies qui sont contre ce système ne vont pas être érigées en système et donc on va les détruire.
Piotr Pavlensky, vous, dans l'espace public russe, en vous mutilant, en vous faisant souffrir, il m'a semblé que vous utilisiez contre vous, sinon des moyens de destruction. Vous m'avez apparu comme un personnage de la littérature russe. J'ai pensé, bien sûr, quand le diable déboule à Moscou et met le bordel dans Le Maître et Marguerite, mais aussi dans L'Évangile du bourreau, un roman policier des frères Weiner, il y a ce machiniste de l'enfer qui vient tourmenter un ancien tueur du KGB. Vous, à l'instar des Japonais de Provoque, il y a quelque chose de suicidaire chez vous, ou au contraire, vous boutez le feu, mais c'est un feu qui doit être fécond.
Oui,
je veux dire avant tout, que je lutte contre la liquidation, contre la destruction, pour objectiver les corps.
Но что происходит во время акции, что происходит после?
Ce qui se passe pendant la performance et après la performance.
Представители власти вовлекаются в действие, они становятся объектами ситуации, подчиняются ситуации.
Les représentants des autorités sont impliqués dans les performances. Ils sont en quelque sorte objets de ces performances, de ces situations.
За счет того, что они хотят уничтожить, ликвидировать это событие.
Ils cherchent à anéantir la performance.
То есть это желание уничтожения.
Cette envie de détruire.
Заставляет их создавать искусство.
Ne sert qu'à créer de l'art.
То есть я делаю искусство руками власти.
Autrement dit, je crée l'art par les mains des autorités.
Опровергаю нарратив власти ее же собственными руками.
Je dénigre l'autorité par ses propres moyens.
В этом суть методологии политического искусства.
Et c'est ça le sens même de la méthodologie de l'art politique.
La définition de l'art politique par Piotr Pavlensky, Diane Dufour, juste un mot pour finir cette émission. À travers, on l'a vu, l'exposition Provoque, en tout cas de ses travaux, de ses artistes, photographes et critiques à la fin des années 60 au Japon, on a découvert donc cet instinct de destruction, ce renouvellement aussi de la proposition photographique. Quand vous arrivez au bal en 2010, donc cette salle d'exposition, vous dites on se demande si le monde est encore lisible à partir de sa surface. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, voilà, il faut aller chercher des images différentes pour provoquer un peu le regard qui est usé, qui ne voit plus les choses?
Ça, c'est la fameuse phrase de Marc Auger que j'aime beaucoup, je ne me souviens plus exactement, mais qui dit « Comment représenter un monde qui ne cesse de se représenter, en train de se représenter, se représentant ?» C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans un monde qui n'existe que par l'image. Et moi, je suis très frappée que ces jeunes, en fait, souvent, présentent deux attitudes qui paraissent contradictoires, mais en fait, qui sont les deux faces de la même pièce. L'un, c'est que l'image peut tout. Et donc, par exemple, je deviens celui que je prétends être en rassemblant des images même faites par d'autres ou mes amis ou volées sur Internet, sur mon site. Donc je me constitue une identité qui n'est faite que d'images mais qui ne correspond pas à mon être. L'image peut tout, mais elle peut tout aussi d'Obama, la campagne d'Obama, Trump, la façon dont Trump utilise ses images. Et les mêmes jeunes qui disent que l'image ne peut rien parce qu'elle est toujours manipulée, parce que c'est la thèse du complot, parce qu'on nous cache des choses, parce que voilà, c'est un objet de manipulation et qu'il faut résister à cette manipulation par des actions très fortes, voire violentes, voire terroristes.
Voire à la Piotr Pawlenski. Ping-pong. C'est déjà fini.
Spasiba, merci beaucoup à tous deux, Diane Dufour et Piotr Pawlenski.
Donc, arigato.
Ah oui.
Arigato, Diane Dufour, cette exposition au Bal à Paris jusqu'en décembre, c'est Provoque entre contestation et performance, la photographie au Japon 1960-1975. Il y a également un très beau catalogue de cette exposition. Quant au cas Pawlenski, la politique comme art, signé Piotr Pawlenski, c'est donc chez Louison Édition, avec voilà, à la fois des entretiens avec un journaliste un peu obtus et avec un enquêteur des services de la justice russe qui, lui, pour le coup, est un vrai amateur d'art.
Le ping-pong est une installation radiophonique alors qui se prépare en équipe. Et quelle équipe à la rédaction Aïssatou Endoy, Jeanne Aléo, Sam Boutata et Lila Bozès, à la réalisation Thomas Beau, à la traduction simultanée Vadim Polyakov et à la prise de son ce soir Jean Guilin Meige et Alex Odang. Et dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec À Voix Nue sur France Culture, bien sûr.